Bien, mes chers collègues, je vais procéder à l'appel à l'arpillière présent. Balestra Claude, Balestra Johan, Beaubreuil Bernard est excusé, représenté par Hervé Baudet. Il risque de nous rejoindre en cours de réunion. Baudet Hervé, Chabot Mireille, Chazla Laurence, Chazelle Anne-Sophie, Coindo Lucien, Béatrice Compère est excusée, représentée par Lucien Coindo, Coucou Nadège, Crossi Eliane, D'Auvergne Frédéric, Desroches Bernadette, Gandois Philippe, Gerbo Alex est excusé, représenté par Thierry Granet, Granet Thierry, Ladune Clément, Laurentier Noël, Le Kief Didier est excusé, représenté par Julia Seba, Malagnou Bruno, Murat Laure, Pesquet Aurabel, Piel Jean-Sébastien, Pic Clémence, Razoa Fenozoa Esther, Roi Didier, Seba Julia, Simono Christelle, Tarno Nathalie, Tricard Stéphanie, Vacheux Christophe. Alors, il y en a peut-être qui ont pensé que c'était encore 18h30. Nous verrons dans un quart d'heure. Dans l'ordre du tableau, secrétaire de séance, Frédéric d'Auvergne. Vous avez reçu donc le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 24 juin 2021. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce compte-rendu? Pas de remarques, on peut considérer qu'il est adopté en l'état, pas de problème. Je vous en remercie. Mes chers collègues, je souhaite que ce soir, notre conseil municipal rende un dernier hommage à Joël Pichon. Beaucoup d'entre vous l'ont bien connu dans le cadre de l'activité municipale, les plus jeunes dans la fonction un peu moins. Mais en ce jour, je souhaitais rappeler que Joël avait été élu en 1995 sur une liste conduite par Roland Mazouin. En 2020, Joël avait entamé son cinquième mandat au sein de la municipalité de Saint-Junien, mais également au sein du conseil communautaire qu'elle a découvert avec ce nouveau mandat. Inutile de dire que Joël connaissait la commune et ses habitants sur le bout des doigts. Depuis juin 2020, elle était devenue adjointe au maire en charge des affaires scolaires, une responsabilité nouvelle pour elle. Et durant la période Covid, la gestion de ce secteur d'activité a été compliquée. Évoquer la mémoire de Joël, c'est aussi dire avec quelle force et détermination, elle a combattu la maladie qui s'est acharnée sur elle à plusieurs reprises. Nous l'avons à chaque fois vu revenir en mairie, parfois très affaiblie, mais comme on dit, fidèle au poste. Mais malgré son courage, sa ténacité, la dernière attaque du cancer aurait eu raison de sa volonté. Chaque fois que je passais la voir, elle prenait des nouvelles de la mairie, toujours attentive au suivi de ses dossiers. La mairie était sa deuxième maison, elle y venait fréquemment, accompagnée de son petit-fils Gabin dont elle était si fière. Il s'installait avec elle sur la table des élus avec ses feutres de couleur pendant que sa mamie lisait son courrier. Jusqu'au bout de ses forces, elle aura rempli son mandat d'adjointe chargée des affaires scolaires. Je le disais il y a quelques minutes, la Covid-19 a créé une situation inédite, rendant sa mission difficile. Elle s'en est acquittée avec diplomatie, compétence et respect de tous les partenaires, qu'il s'agisse des parents d'élèves, des instituteurs et des personnels municipaux. Quelques jours avant de mourir, elle s'était rendue à l'île d'Oléron, accompagnée de quelques proches, et elle avait ainsi pu revoir les lieux de vacances, la maison qu'elle aimait tellement. Elle n'ignorait pas le sort que la maladie lui réservait, et c'est avec un courage admirable qu'elle a voulu faire cette dernière balade pour voir la mer et l'immensité sans fin qui se présentait à elle. Je veux aussi rappeler que Joël, assistante administrative à l'hôpital, y a fait toute sa carrière, où elle était connue et appréciée de tout le monde. Elle n'aura malheureusement pas pu profiter de sa retraite comme elle l'aurait voulu. Joël, c'était aussi une syndicaliste déterminée, attachée aux conditions de travail, au bien-être de ses collègues, au sein de la structure hospitalière. Détachée à mi-temps comme trésorière du syndicat CGT, elle participait aux instances représentatives du personnel. Par ailleurs, elle faisait partie de nombreuses commissions municipales et communautaires. Son implication auprès de toutes les associations sportives était particulièrement appréciée. Répondant toujours présente, avec entrain, elle ne ménageait ni sa peine, ni ses efforts. Elle s'était engagée dans le Téléthon avec bonne humeur et passion. Mais depuis quelques mois, Sa vitalité s'était bien évidemment émoussée. Sa disparition a créé un grand vide dans la municipalité, mais également dans la commune. Je veux rendre hommage au nom du conseil municipal et du conseil communautaire, à sa loyauté, à son engagement sans faille pour les habitants du territoire. C'est donc avec infiniment de respect, en mémoire de tout ce qu'elle a réalisé pour la commune, que je souhaite redire que nous prolongerons les projets de Joël, nous ne l'oublierons pas. Et avec une tristesse infinie, je dédie cet hommage à toute sa famille, à son petit-fils Gabin et à ses deux enfants. Je vous propose que nous rendions un dernier hommage à Joël par le respect d'une minute de silence. Je vous remercie. Alors, je dois signaler également à cet égard que, donc dans l'ordre de la liste, c'est Madame Michèle Brenac qui remplace notre collègue Joël Pichon en tant que conseillère municipale. Donc, Madame Brenac va nous rejoindre, mais elle était elle aussi bloquée. À un moment donné, dans quelques problèmes sur Limoges, donc elle va arriver, elle n'est pas très loin. Je vous propose donc que l'on passe dans l'attente à l'ordre du jour de notre conseil avec notre collègue Laure Murat concernant le plan d'action 2021 pour la médiathèque.
La ville de Saint-Junien est engagée depuis mars 2019 dans un contrat territoire lecture avec les communes d'Oradour-sur-Glane et de Rochechouart d'une part, et l'État, à travers la Direction régionale des affaires culturelles d'autre part. À ce titre, l'État s'est engagé à verser à la commune de Saint-Junien une subvention annuelle de 25 000 euros, sous réserve que la commune, coordinatrice administrative et financière du contrat, puisse abonder un budget de 50 000 euros de dépenses par an. Le budget prévisionnel pour la réalisation des actions 2021 étant réduit à 24 000 euros, l'État porte sur cet exercice la subvention à 15 000 euros. Un premier plan d'action a été mis en place en 2019 et 2020 sur les trois communes autour des démarches suivantes. Aide à la personne pour l'administration numérique, atelier numérique et services civiques numériques. Animation en direction de tous les publics, programmation de contes enfants et adultes, parcours botanique et artistique, nuit de la lecture, exposition et animation pop-up, atelier bande dessinée. Et l'élaboration d'un programme de formation pour les agents des médiathèques en intra. Kamishibai, lecture à voix haute, pop-up, en lien avec la bibliothèque départementale de Haute-Vienne et le CNFPT. Le bilan de ce plan d'action du contrat territoire lecture traduit l'intérêt de la démarche dans la diversification des propositions formulées par nos médiathèques aux usagers du territoire. 28 prestataires et intervenants en 2019, 12 en 2020. 516 participants en 2019, 1185 en 2020, 383 heures par agent des trois médiathèques en 2019, 450 hors coordination en 2020. Le plan d'action 2021 pour les trois médiathèques du territoire s'établit ainsi. Le numérique accessible, développement d'animation, d'exposition dans le cadre de la fête de la science en octobre 2021, animation en direction de tous les publics, le distributeur à histoire, donnons de la voix au public par de nombreux ateliers d'écriture et de maîtrise de la voix, élaboration d'un programme de formation pour les agents des médiathèques, deux formations sur la création et l'utilisation des racontes-tapis en octobre. La ville de Saint-Junien sollicite le concours financier de l'État pour la réalisation du plan d'action 2021 et la coordination du contrat territoire lecture à hauteur de 15 000 euros et s'engage à signer tous les documents nécessaires à l'instruction de cette aide. Le conseil municipal a pris délibération sollicite le concours financier de l'État pour la réalisation du plan d'action 2021 et la coordination du contrat territoire lecture à hauteur de 15 000 euros et s'engage à signer tous les documents nécessaires à l'instruction de cette aide.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier-là ? Donc, avant de le soumettre au vote, je souhaite la bienvenue à notre collègue Michel Brenac, donc qui siégera maintenant au sein de ce conseil municipal. Donc, s'il et l'arrivée de Christophe Vacheux également. Voilà. Comment ? S'il n'y a pas de questions, je vais le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Mireille Chabot concernant la mise en œuvre de la clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi dans les marchés publics.
Dans le cadre des objectifs de la politique de cohésion sociale et d'une politique de développement durable, la collectivité entend faire en sorte que la commande publique puisse favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et ce, dans le respect des dispositions du Code de la commande publique. Afin de promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, la commune de Saint-Junien fait, en premier lieu, appel à ses partenaires privilégiés qui sont les entreprises du secteur privé qui répondent à ces appels publics à la concurrence. C'est pourquoi, en application de l'article L2112-2 du Code de la commande publique, il est proposé que la direction des ressources fixe dans le cahier des charges des marchés publics de certaines opérations des conditions d'exécution sur certaines parties de travaux permettant de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion. L'utilisation de la clause sociale d'insertion permettra de favoriser le rapprochement qui doit s'opérer entre les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises du secteur privé dans l'intérêt des personnes engagées dans un parcours d'insertion. Elle permettra également de répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises qui connaissent dans certains secteurs des difficultés de recrutement. À cet effet, la collectivité sollicite l'appui de la cellule d'ingénierie clause sociale d'insertion du Conseil départemental de la Haute-Vienne pour la mise en œuvre de ces dispositions. Il vous est demandé de se prononcer sur le principe de la mise en œuvre de l'ensemble des dispositifs évoqués ci-dessus.
Je remercie le rapporteur. Donc, c'est ce qui fait suite également à la clause d'insertion sociale qui est mise en place par le département et qui permet aussi d'abonder éventuellement les subventions que l'on peut recevoir au niveau du département. Ça concerne évidemment des marchés qui sont d'une certaine importance, puisqu'on ne peut pas demander à des entreprises, si c'est un tout petit marché, d'avoir une clause d'insertion sociale, mais dès lors que les marchés dépassent, je crois que c'est 100 000 euros, la clause d'insertion sociale est appliquée avec l'aide de la cellule d'ingénierie du département. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre, donc adoptés à l'unanimité. Mes chers collègues, la question suivante concerne donc la taxe foncière sur les propriétés non bâties, notamment l'exonération des terres agricoles exploitées selon un mode de production biologique. L'article 1395 G du Code général des impôts permet au conseil municipal d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant une durée de 5 ans les propriétés non bâties classées dans les premières, deuxième, troisième, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégorie définie à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement, dont je vous passe tout le détail que vous avez sur votre dossier. Cette exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire, ou si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts avant le 1er janvier de chaque année la liste des parcelles concernées, accompagnée du document justificatif annuel délivré par l'organisme certificateur agréé. Voilà, donc il vous est proposé de valider cette délibération et de m'autoriser à la notifier aux services préfectoraux. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Balestra?
Monsieur le maire, mes chers collègues, on se félicite de l'adoption de cette mesure. C'était une proposition qu'on vous avait formulée lors du vote du budget l'année dernière. C'était pour Énergie Citoyenne un engagement de campagne. On est extrêmement satisfait d'avoir pu travailler de concert sur cette mesure au sein de notre conseil municipal. C'est pas évident d'avoir des chiffres concernant je dirais, l'organisation agricole sur notre territoire, selon certaines données qui peuvent un petit peu dater, que l'on obtient de la part de la DRAF, lors du dernier recensement agricole, qui date quand même de 2010, on avait 55 exploitations sur notre commune, soit 2858 hectares de superficie agricole utilisée. Et selon les données issues de l'agence bio en 2019, on avait 6 exploitations en bio représentant 379 hectares de surface bio. Finalement, on se rend compte qu'on est aux alentours de 11% de nos exploitations qui sont sous un mode de production biologique représentant environ 13% de l'ensemble des parcelles. Cette mesure, c'est un signal extrêmement positif qui va être lancé auprès des agriculteurs qui souhaitent aujourd'hui se convertir dans un autre mode de production. Il y a beaucoup de freins, parfois des freins financiers, et le fait que notre collectivité s'engage est extrêmement appréciable. C'est un accompagnement, ça ne va pas peut-être changer du jour au lendemain les modes de production, mais c'est une pierre de plus à l'édifice et c'est vraiment appréciable que l'on puisse faire ce geste-là. Il faut également que ça puisse donner l'exemple pour les communes qui nous entourent, pour que ça puisse lancer une dynamique sur le territoire. Et puis les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme la POL, peuvent également adopter la même mesure. Donc nous le présenterons également au conseil communautaire et on essaiera de travailler et avec vous-même évidemment, puisque ce serait cohérent que la commune de Saint-Junien porte cette proposition au sein de la communauté de communes et travailler avec les autres communes de la POL pour qu'on puisse avoir véritablement un impact encore plus important que simplement Saint-Junien sur le territoire de la communauté de communes. Donc encore une fois, nos remerciements et puis on espère que ça portera ses fruits et que ce sera reconnu.
Je vous remercie, M. Balestra. Alors, avant de le soumettre au vote, juste une, ce n'est pas une réponse d'ailleurs, hein, c'est une précision que j'avais déjà donnée d'ailleurs. Alors, bon, les pourcentages, moi je suis très prudent sur les pourcentages parce que c'est effectivement, on a demandé des informations, c'est quasiment invérifiable, donc je suis prudent. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que l'exonération ne portera pas forcément sur les pourcentages qu'on a donnés, même si on est à 1 ou 2% près, peu importe, hein, ne portera pas forcément sur ces pourcentages-là, puisqu'on exonère une taxe foncière. Donc ça veut dire qu'on exonère le propriétaire du terrain, pas forcément celui qui exploite le terrain. Donc ça veut dire qu'il faut que derrière, le propriétaire fasse, enfin, ait la volonté d'aller répercuter sur son locataire cette exonération de taxes foncières. Et là, par contre, nous n'avons aucun moyen de savoir s'il a répercuté ou pas. Et puis, c'est d'ailleurs de son plein droit de répercuter ou de ne pas répercuter. Après, nous, si on prend cette délibération, effectivement, on espère que les propriétaires vont répercuter, mais ils peuvent ne pas répercuter sur le locataire. Donc, je ne peux pas vous affirmer aujourd'hui que cette mesure aura un effet, on va dire, direct sur les exploitations, sur les terrains exploités de manière biologique, mais on espère qu'au-delà de l'affichage de la mesure que l'on fait aujourd'hui, il y ait derrière une interactivité, on va dire, sur le terrain. Mais je dois dire que je n'en suis pas sûr, donc j'espère que ça ne va pas rester au seul stade de l'affichage.
Oui, eh bien, je partage tout à fait cette interrogation. Vous l'aviez soulevée lors d'une conversation qu'on avait eue. Selon certains documents issus des fédérations de l'agriculture biologique, il y aurait une obligation justement à ce que ce soit répercuté. Alors, je ne sais pas encore avec quelle disposition, parce qu'ils ne les mentionnent pas dans leurs documents. Donc c'est juste effectivement un point à soulever, à vérifier.
Les éléments que nous avons demandés aux services fiscaux, puisque bon, il n'y a qu'eux qui pouvaient nous donner les éléments, et les vérifications qui ont été faites dans d'autres départements montrent que lorsque des communes appliquent cela, ils sont incapables de voir la répercussion sur le terrain. Donc ça veut dire que Je ne suis pas convaincu que l'eau. Oui, voilà, on a 5 communes qui l'appliquent. Il y a zéro retombée, enfin, il y a zéro déclaration derrière. Donc, est-ce que il y a une obligation réelle? J'en suis pas convaincu aujourd'hui. Après, moi je m'en tiens à la délibération. La partie législative ne dépend pas de la commune de Saint-Julien. Voilà. Bien, donc je vous le soumets au... Oui, monsieur Coindeau, pardon.
Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, donc effectivement, je crois que nous sommes nombreux autour de cette table à être satisfaits de cette prise de décision. Mais par rapport à la population de Saint-Junien, ceux qui vont lire lors des comptes rendus, de la publication des comptes rendus, un avantage au niveau du prix du foncier, je ne suis pas sûr que tout le monde mesure la portée. Et est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que cette décision soit accompagnée d'une communication sur la situation réelle de notre environnement, de notre territoire, avec la disparition depuis de nombreuses années déjà de beaucoup d'espèces, que ce soit des insectes, des oiseaux? Et est-ce que ce ne serait pas bien de sensibiliser, à l'occasion de la publication, enfin du compte-rendu de ces délibérations, que la commune s'engage aussi dans une volonté d'action pédagogique pour faire davantage prendre conscience à nos administrés de l'importance, à travers une modification du mode d'agriculture, de l'importance que ça peut avoir par rapport à toutes ces espèces dont certaines sont vraiment en danger. C'est une suggestion. Merci.
Alors, juste pour répondre, je crois que ça pourra faire l'objet d'une explication, soit dans le petit bonjour, soit dans le grand bonjour. Mais dans un premier temps, les délibérations, elles sont très cadrées et très réglementaires. Donc, on ne peut pas faire le commentaire en même temps que la délibération. Il faut que la délibération soit validée par le contrôle de légalité des gens en préfecture pour pouvoir être appliquée par les services fiscaux et préfectoraux. Mais ensuite, il pourra y avoir, bien sûr, dans le bonjour ou le petit bonjour, une explication qui soit donnée à un moment donné avec un lien également, comme tu viens de le demander. Alors, je vais vous le soumettre au vote parce que je crois que je ne l'ai pas soumis au vote du coup. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Mais ça, c'est hors compte rendu. Je ne présage pas, par contre, du résultat à la communauté de communes. Bien. Donc, notre collègue Aurabel Pesquet pour les frais de réception de l'arbre de Noël. Et c'est bien 2019.
Non. Ah non, c'est pour régulariser les frais 2019, oui. Mais c'est pour maintenant, on vous la demandera plus chaque année.
Voilà, d'accord.
Chaque année, la commune de Saint-Junien organise une réception pour l'arbre de Noël, pour son personnel actif et retraité, mais aussi pour le personnel actif et retraité de la communauté de communes Porte-Océane du Limousin et de Saint-Junien Habitat. Il est proposé que la commune de Saint-Junien, en sa qualité d'organisatrice, règle l'ensemble des dépenses afférentes à cette manifestation, y compris les bons cadeaux des enfants et les colis de fin d'année, et qu'elle demande le remboursement des frais exposés à la CCPOL et à Saint-Junien Habitat au prorata de leur personnel concerné. Un tableau de répartition des frais relatifs à l'arbre de Noël sera établi tous les ans à l'issue de la manifestation et servira de base à la demande de remboursement adressée à la CCPOL et à Saint-Junien Habitat. Il est demandé après délibération d'accepter que la commune de Saint-Junien, organisatrice de l'arbre de Noël, règle les dépenses relatives à cette manifestation, y compris les bons cadeaux pour les enfants et les colis de fin d'année, que le remboursement des frais occasionnés sera demandé à la CCPOL et à Saint-Junien Habitat, au prorata de leur personnel concerné, précise qu'un tableau de répartition des frais entre les entités participantes sera établi tous les ans à l'issue de la manifestation et donner tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Christophe Vacheux concernant la création d'un groupement de commandes.
Considérant le recensement des besoins en fourniture, produits d'hygiène et matériel de nettoyage qui sont nécessaires à l'entretien des locaux des divers bâtiments communaux et les achats qui génère une dépense annuelle d'environ 30 000 euros, considérant les besoins identiques exprimés par les services de la communauté de communes Porte-Océane du Limousin pour l'entretien des bâtiments intercommunaux, Considérant le projet de convention portant création du groupement de commande en référence aux dispositions des articles L 2113-6 et L 2113-7 du Code de la commande publique entre la commune et l'établissement public intercommunal, considérant que chaque membre du groupement sera habilité à délivrer les bons de commande au fur et à mesure de ses besoins propres, dans les limites des inscriptions budgétaires, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la création du groupement de commande et d'autoriser M. le maire à signer la convention et à exécuter les accords cadres dans les conditions fixées au cahier des charges.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des votes contre? Adoptés à l'unanimité. Notre collègue Nadège Coucou concernant l'instauration de l'indemnité de l'IAT et de l'indemnité mensuelle de fonction pour les agents des cadres d'emploi, des agents de police municipale et des gardes champêtres.
Oui, donc considérant la création d'un poste de gardien brigadier du cadre d'emploi des agents de police municipale au tableau des emplois du 1er juin 2021, il convient d'instaurer l'indemnité d'administration et de technicité pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi que pour les agents non titulaires de droit public relevant des cadres d'emploi fixés dans le tableau qui est dans la délibération, dans les conditions définies ci-après à compter du 1er octobre 2021, étant entendu que le coefficient retenu par la collectivité doit être compris entre 0 et 8. Dans le tableau, vous avez les cadres d'emploi. Donc, au niveau des cadres d'emploi d'agents de police municipale, les gardiens brigadiers, le montant de la référence annuelle en vigueur à cette date est de 475,31 €. Les brigadiers chefs principaux, 495,93 €. Au niveau des cadres d'emploi de garde champêtre, donc le garde champêtre chef, 475,31 € et le garde champêtre chef principal, 481,82 €. Donc, montant annuel en vigueur à cette date. Donc, il est demandé au conseil municipal d'instaurer l'indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police municipale et des gardes champêtres pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi que pour les agents non titulaires de droit public relevant des cadres d'emploi cités précédemment. De dire que le montant de l'indemnité spéciale mensuelle de la fonction est égal au maximum à 20% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension, donc hors supplément familial et indemnité de résidence. De fixer les critères d'attribution individuelle comme suit, donc la manière de servir résultant d'évaluation effectuée lors de la notation annuelle. De décider d'inscrire au budget concerné de l'exercice en cours les crédits nécessaires au mandatement de ces primes et de charger le maire de procéder par voie d'arrêté aux attributions individuelles qui sont modulables en fonction des critères d'attribution énoncés ci-dessus, étant entendu que les versements s'effectueront mensuellement.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on avait créé le poste il y a quelques, je ne sais plus à quelle réunion du conseil, peut-être le dernier conseil. Et là on fait l'IAT. Donc est-ce qu'il n'y a pas de questions? Des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Eliane Grossi concernant un mandat spécial.
Mandat spécial, Association Ville et Métiers d'Art. L'Association Ville et Métiers d'Art organise sa prochaine Assemblée Générale les 30 septembre et 1er octobre 2021 à Vincennes. Afin de faciliter l'exercice de leur mandat, les élus municipaux peuvent bénéficier du remboursement de frais exposés dans le cadre de leurs fonctions. Dans le cadre de l'exécution d'un mandat spécial, frais de déplacement et de séjour lors de la participation à des réunions des instances ou organismes au cours desquels ils représentent leur collectivité. Dans le cadre d'un mandat spécial, il vous est donc demandé de mandater M. Lucien Coindeau pour participer à l'Assemblée Générale organisée par Ville et Métiers d'Art les 30 septembre et 1er octobre 2021 à Vincennes et de décider que la commune prendra en charge l'intégralité des frais occasionnés par ce déplacement sur la base des dépenses réelles qui auront été réalisées et justifiées.
Je remercie le rapporteur. Donc, les mandats spéciaux, vous allez les retrouver. Donc, pour les plus anciens, hein, c'est les trésoreries qui nous demandent ça maintenant. Alors qu'il y a une délégation, enfin, un ordre de mission qui est établi, mais il faut quand même qu'on passe les mandats spéciaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Balestrin.
Oui, merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Vous n'allez pas être très surpris. de notre position, puisque lors du conseil municipal du 6 février 2020, j'avais exposé la même appréciation des choses. Ville et métiers d'art, nous sommes tous d'accord, c'est quelque chose à laquelle notre commune doit adhérer. Se déplacer à Paris dans le cadre de l'événement qui est organisé, nous sommes tous d'accord, il faut que quelqu'un s'y rende. Dans les modalités de remboursement ou de prise en charge, c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Nous avions déjà exposé notre point de vue en début de mandature, à savoir que nous souhaitions qu'en dehors de l'indemnité du maire, les indemnités des adjoints et des conseillers délégués soient divisées par deux, nous permettant de faire des économies qui auraient pu être réinjectées dans d'autres, pour d'autres, d'autres dépenses. Aujourd'hui, nous considérons que, eu égard au montant de l'indemnité mensuelle perçue par un adjoint, cela permet amplement de prendre en charge le déplacement. Effectivement, s'il s'était agi d'un collègue qui ne bénéficie d'aucune indemnité, nous aurions voté ce mandat spécial parce que un mandat ne doit pas coûter. Mais compte tenu du fait que l'indemnité perçue est bien une indemnité et pas un salaire, aujourd'hui, notre groupe s'abstiendra dans le cadre de cette délibération.
Je vous remercie. Moi, je dois dire que c'est un débat qui est un peu démagogique et qui ne prend pas en compte le travail qu'effectuent les adjoints et la disponibilité qui leur est demandée tout au long des semaines lorsqu'ils sont en mairie, et que les indemnités d'adjoints, elles ne sont pas décidées comme ça. Elles sont décidées, il y a on va dire un règlement national qu'on applique. Les adjoints à Saint-Junien sont rémunérés selon une base qui est connue de tous, puisqu'elle a été votée, elle a été votée en conseil municipal, peut-être pas à l'unanimité, mais elle a été votée. Et cette base fait référence donc à une enveloppe. Alors, on peut toujours aller dire que si on enlève de l'argent à quelqu'un, ça ira ailleurs pour faire autre chose, mais moi, je voudrais juste faire un parallèle. J'ai jamais vu un salarié qui aille à une mission sans être indemnisé par son chef d'entreprise. Donc là, c'est la même chose. Si, M. Balestra, un salarié ne perd pas de salaire lorsqu'il va dans une mission, et il a une indemnité kilométrique qui lui est calculée avec des frais de remboursement de train, avec des frais de remboursement d'hôtel lorsqu'il part en mission. Donc ce qui est exactement la même chose dans ce cas-là, ce qui est la même chose lorsque... on se rend, et vous aurez un prochain mandat spécial pour l'Association des maires de France. Voilà, je crois que la mairie de Saint-Junien est une collectivité qui n'abuse pas des mandats spéciaux, qui n'abuse pas non plus, je dirais, des remboursements à droite et à gauche, des frais qu'il peut y avoir. D'ailleurs, lorsque la Chambre régionale des comptes est venue nous contrôler, elle a pu constater que le niveau était parmi les plus bas qu'on puisse trouver dans les villes de notre importance. Donc, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas d'abus là-dessus. Par contre, moi, je considère que quelqu'un qui se déplace doit être remboursé de ses frais parce qu'il n'a pas à être de sa poche. Par contre, l'indemnité qu'a un adjoint, un conseiller délégué ici autour de cette table, elle est faite pour exercer une mission sur le territoire. Et lorsqu'il y a une représentation exceptionnelle qui dépasse les limites du territoire communal, eh bien, je considère qu'il doit y avoir... que l'indemnisation doit se faire, bien sûr, il n'est pas question de faire du bénéfice. C'est pour ça qu'on précise bien que c'est sur justification des dépenses qui auront été effectuées. Alors après, on peut toujours tomber dans le débat démagogique, mais j'ai vu beaucoup d'élus qui avaient divisé leur indemnité par deux, mais qui ont vite changé d'attitude par la suite. J'ai aussi vu des élus qui avaient divisé leur indemnité par deux, mais parce qu'ils travaillaient aussi à côté. Donc moi, je crois qu'il faut tout comparer à un moment donné, et que tout le monde autour de cette table n'est pas au même niveau de revenu salarial, et qu'on ne peut pas faire une généralité. Donc je crois, moi, par contre, à la République et à la garantie qu'assurent les textes de la République, et c'est ce que nous appliquons. Je crois qu'après, on peut toujours avoir des débats sur tout, on peut toujours dire que les stylos qu'on met autour de la table, on ne devrait pas les mettre parce que vous pouvez venir chacun avec votre stylo, que ça fera des économies à la collectivité. Je veux dire qu'on peut aller très loin là-dessus. Voilà, mais là, aujourd'hui, les mandats spéciaux, on doit en passer un ou deux par an. Donc, je crois que ce n'est vraiment pas abusé de cette action-là. Après, on ne va pas relancer le débat parce qu'il peut être démagogique sur ce point-là, et je crois qu'il n'a pas d'utilité. Monsieur Balestra.
Oui, simplement deux mots très très rapides. Justement, j'ai bien fait la distinction entre le cas d'une personne qui serait salariée, qui bénéficie d'un traitement, et le cas d'un élu qui bénéficie d'une indemnité. On est bien dans deux situations différentes. On parle d'indemnité,
elle est là pour couvrir
au quotidien les dépenses qui sont liées au mandat. Et donc, on entre pleinement dans ce champ-là. Et puis, si chaque fois qu'on fait une proposition sur une nouvelle façon d'appréhender la démocratie, on nous renvoie qu'on fait de la démagogie, bon, j'adhère pas du tout à ça. Vaut mieux qu'on se dise, on n'est pas d'accord, mais c'est pas démagogique. Il y en a qui le font. Madame la maire de Poitiers, avec l'ensemble de son équipe municipale, ils ont diminué leurs indemnités. C'est pas que de la démagogie. À partir du moment où on porte ces valeurs-là, où on y croit,
oui, non,
où on a pris l'engagement.
Non, mais monsieur Balestra, il faut comparer le montant des indemnités. Vous allez me chercher une grande ville.
Oui.
Ça veut dire que les adjoints dans une grande ville, ils ont le montant du maire de Saint-Junien. Donc, faut comparer ce qui est comparable. Moi, je veux bien tout, mais...
Mais on pourra, si vous voulez, lors du prochain conseil, comparer les indemnités qui sont perçues par des élus de Poitiers ou par des élus de Saint-Junien sans aucune difficulté.
Mais vous n'avez pas besoin de les comparer, je les connais.
Les écarts ne sont pas si substantiels que ça.
Elles sont publiques. L'exemple que vous me prenez, moi, quand je vous dis salarié, je pourrais vous prendre un retraité qui a une indemnité d'adjoint aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il ait plus de revenus qu'un salarié qui est indemnisé lorsqu'il part en formation quelque part. Donc moi, je veux bien entendre votre raisonnement, mais il faut l'appliquer à tout le monde de toutes les façons. Et ça, je considère que c'est un raisonnement qui fait un peu preuve de démagogie. Lorsqu'on vient me dire qu'on va faire des économies sur cet aspect-là, ça sous-entendrait que les élus coûtent cher, et ce dont je ne crois pas, et ce dont d'ailleurs je pense qu'il faudrait faire un vrai statut de l'élu qui permette d'indemniser beaucoup mieux les élus, ce qui permettrait peut-être d'avoir beaucoup plus d'élus qui veulent aller sur cette notion-là, et un vrai statut qui prenne en compte aussi la situation salariale des élus. Et ça me paraît être un débat qui n'est pas démagogique, c'est-à-dire que l'élu, lorsqu'il laisse son travail, qui n'est pas dans la fonction publique, il puisse retrouver un travail après, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Sur ce fond-là, vous connaissez ma position, elle est identique à la vôtre. Le statut de l'élu, ça fait longtemps qu'on en parle, effectivement les choses ne bougent pas, et on est pleinement d'accord. Après, simplement... si nous vous avions voulu avoir une position démagogique, il suffisait de dire « nous supprimerons les indemnités des élus ». On n'est pas dans cette démarche-là. On ne dit pas qu'il ne faut pas d'indemnités aux élus au sein du conseil municipal de Saint-Julien. On est juste là pour discuter du montant et on n'a pas la même appréciation des choses, du même signal à donner. On n'est pas dans les mêmes, peut-être, logiques, citoyennes, participatives, où on nous dit des choses, où on entend. Bon, on s'est positionné. Après, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est pas grave, simplement... Vous comprenez aujourd'hui la cohérence qu'il y a entre la position qu'on a tenue en début de mandat par rapport aux indemnités et aujourd'hui notre position au sein de la cohérence. C'était pas pour lancer une polémique quelconque, c'est juste pour vous dire notre prise de position est en lien avec notre pensée globale.
Je ne polémique pas, mais vous me permettrez quand même de répondre. Répondre n'est pas forcément polémiquer. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que moi, je réfute le débat selon lequel l'élu coûte cher. Déjà, le premier point, je réfute ce débat-là. Parce que lorsqu'on commence à vouloir dire qu'on peut réduire les indemnités des élus, ça veut dire qu'on est en train de distiller dans la tête des personnes que les élus coûtent cher. Moi, j'ai entendu des députés, y compris d'ailleurs de votre bord, qui disent qu'il faut réduire les indemnités, mais je ne les ai pas vus dire au gouvernement « je n'accepte pas de prendre mes indemnités ». Donc moi, je veux bien tout. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le débat, moi, de dire que les élus coûtent cher. Je suis dans le débat de dire, à un moment donné, faisons un statut de l'élu qui s'applique à tout le monde et qui précise clairement les choses. Clairement les choses. Mais je ne peux pas, aujourd'hui, sur un mandat spécial qui sert simplement à rembourser les frais de déplacement d'une personne, considérer que... ça voudrait presque dire que si on avait réduit de moitié l'indemnité des adjoints, un mandat spécial, vous auriez voté le mandat spécial. Ça ne veut rien dire. Parce que votre raisonnement ne tient pas. On est dans une collectivité où un adjoint, il a un peu moins de 800 euros. La collectivité d'à côté, l'adjoint, il a peut-être 200 euros. Donc vous voyez bien que le débat, il ne tient pas. Et qu'il tiendrait s'il y avait un vrai statut de l'élu dans tout ce pays. Il n'y a pas une homogénéité aujourd'hui qui tend à dire que l'élu coûte cher. Parce qu'on englobe tous les élus. Alors, est-ce que l'adjoint au maire de Limoges, qui va avoir une rémunération trois fois ou quatre fois supérieure à celle d'un adjoint à Saint-Junien, coûte plus cher que celui de Saint-Junien? J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que aujourd'hui, les indemnités d'élus, telles qu'elles sont définies par les textes, elles sont en fonction de la population. Donc, ça veut dire qu'au-delà d'un certain seuil de population, on n'a pas le droit d'aller au-delà. À Saint-Junien, il y a des rémunérations qui n'ont pas changé, d'ailleurs, je crois, depuis 20 ans. Ce n'est pas compliqué. Depuis que je suis élu à la mairie de Saint-Junien, nous n'avons pas augmenté les indemnités d'élus. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on a été exponentiel là-dessus, alors qu'on en avait la possibilité, puisque je rappelle que l'État a donné la possibilité d'augmenter les indemnités d'élus à une ou deux reprises, d'ailleurs. Depuis 2001 que je suis élu dans cette collectivité, nous n'avons pas augmenté les indemnités d'élus. Ce qui voudrait presque tendre à dire que, vu le coût de la vie, si le coût de la vie a augmenté et si les gens se plaignent parce qu'ils ont moins d'argent, au niveau des élus, le coût de l'indemnité a baissé puisqu'on ne l'a pas augmenté et que le coût de la vie a augmenté, lui. Mais je crois que le débat, j'entends ce que vous dites, sauf que ça, moi, je voudrais bien, ça tiendrait si on rembourse tout ce qui est... Mais dans cette mairie, on ne rembourse les mandats spéciaux, vous en voyez deux par an, et encore pas tous les ans. Pas tous les ans. Donc, je comprends mal ce raisonnement, c'est pour ça que je vous dis, tant qu'il n'y a pas de vrai statut de l'élu, montrer du doigt les élus en faisant penser, parce que c'est ça, on arrive à ça au final, que l'élu coûte cher, il faut être prudent. Il faut être prudent. Voilà, c'est tout. Monsieur Granet et Monsieur d'Auvergne.
Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Je ne poursuivrai pas dans cette polémique et je souscris en revanche aux propos de Monsieur le maire qui sont pour moi de la démagogie. Juste une petite parenthèse. Dans le cadre de mon activité professionnelle, je suis au contact des élus du département et singulièrement des élus ruraux. Un petit exemple comme ça, une petite anecdote. J'ai vécu, comme beaucoup d'entre vous autour de cette table, la tempête de 99. Et je me souviens être intervenu avec des collègues de la DDE à l'époque dans des petites mairies, des petites communes. Notamment, tiens, une qui me vient à l'esprit, Maisonnée-sur-Tardoire. Le maire doit avoir comme indemnité de maire 500 euros par mois. Il n'a aucun service à sa disposition. Il est maire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Le maire de l'époque, dont j'ai malheureusement perdu le nom, était salarié dans une entreprise privée. Il travaillait à Rochechouart, à l'époque, dans un garage automobile. Heureusement que son patron était quelqu'un qui le connaissait bien, et qui lui permettait quelques largesses, d'ébaucher plus tôt pour pouvoir se rendre dans sa mairie en tant que de besoin. Singulièrement en 1999, quand 80% de la forêt limousine est tombée, et notamment sur les territoires du sud-ouest du département, le maire ne... Moi, je l'ai vécu, ça, j'en ai été le témoin. Le maire ne dormait que quelques heures par nuit, n'a même pas eu l'occasion de rentrer chez lui pour voir si sa maison était encore debout, parce qu'il était en mairie, en train d'essayer de répartir sur le territoire de sa commune les groupes électrogènes que nous étions là pour lui livrer, pour qu'on puisse traire les vaches du territoire. 500 euros par mois. C'est vrai qu'on peut parler véritablement d'un statut scandaleux et que les élus s'enrichissent grâce à leur mandat. Donc, et je répéterai pas ce que vient de dire Monsieur le maire, il est évident qu'il est plus facile d'être adjoint au maire à Limoges ou à Poitiers, qui sont des collectivités qui disposent de larges services à leur côté, que d'être adjoint au maire dans une commune rurale. Et je rappelle que sur les 35 000 communes de France, plus de 80% comptent moins de 3 500 habitants. Donc je répète et je confirme, ce débat est bien de la démagogie. Mais là où je voulais intervenir, c'est sur le fond de cette délibération que je suis ravi que nous ayons voté à la majorité. Qu'on envoie notre collègue Lucien Coindeau, j'espère qu'on va la voter. Qu'on envoie notre collègue Lucien Coindeau à cette réunion de l'association des villes, de l'association Ville et Métiers d'Art, est absolument capital. à 2 jours de la, du week-end des Journées européennes du patrimoine. Je voulais rebondir là-dessus. La ville de Saint-Junien fait partie de ce réseau des villes et métiers d'art qui est absolument essentiel parce que appartenir à ce type de réseau permet d'avoir les informations de ce qui se passe dans l'ensemble du pays, permet de prendre des idées et permet aussi d'avoir une visibilité. C'est-à-dire que Saint-Junien est rendu visible grâce au réseau auquel elle appartient. Donc il est absolument essentiel que nous soyons présents dans toutes ces réunions. Et moi, à cet égard, je remercie Lucien Coindeau de représenter la ville lors de ces 2 jours de réunion. Et puis, je vous invite toutes et tous à venir participer aux actions qui sont menées pendant ce week-end des Journées du patrimoine, et notamment samedi, avec différentes manifestations qui sont prévues au cimetière de Saint-Junien. Voilà, je vous remercie, monsieur le maire.
Je vous remercie, monsieur Grenier. Je crois que j'en étais à monsieur d'Auvergne, il me semble. J'avais un peu perdu le fil dans la...
Monsieur Grenier, je ne pense pas que le débat soit démagogique. Ce n'est pas le débat qui est démagogique. Ce n'est même pas l'énergie citoyenne qui soit démagogique. Je veux dire, c'est les propos de monsieur le maire qui a dit que l'énergie citoyenne était démagogique. Mais jamais on a dit que le débat était démagogique. C'est vous qui l'entendez comme ça. En tout cas, est-ce... Non. Non, le débat n'est pas démagogique, il est démocratique, simplement. Ah, mais c'est pas ce que vous avez dit, monsieur Granet, justement. Bref, jamais vous avez entendu un élu d'énergie citoyenne dire que les élus de Saint-Junien, quels qu'ils soient, que ce soit le maire ou les adjoints, s'enrichissaient. Jamais je l'ai entendu. Et je ne pense pas que vous ayez des propos qui soient remontés de cette sorte. Jamais j'ai entendu un élu d'énergie citoyenne dire... revenir sur l'engagement de M. le maire ou de ses adjoints. Jamais. Donc là, il y a peut-être de la démagogie quand j'entends ça, simplement. Donc c'est pour mettre un terme, il n'y a pas de polémique, on propose, vous n'acceptez pas, tout simplement, vous avez le droit. C'est tout. Bref, moi je veux revenir sur des aspects plus formels de la délibération. Lorsque vous reprenez l'article de 1123-18, il a été modifié cet article. Il faudra le relire. Le réécrire, justement, dans la voie de délibération. Je le relis. C'est que l'article 2123-18 prévoit désormais que les dépenses de transport, j'entends, effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal et non plus sur présentation d'un état de frais. Donc ça, c'est à modifier, d'une part. Deuxième chose, moi, je relève quelques contradictions dans cette délibération. Les contradictions portent à savoir si... est-ce que le remboursement se fera de manière forfaitaire ou il se fera sur des dépenses réelles? Parce que moi, je lis tout et son contraire dans la délibération. Donc, il faudra être plus clair. Voilà.
Donc, normalement, c'est le régime forfaitaire qui s'applique automatiquement, sauf si on délibère sur un mandat spécial. Et donc, le mandat spécial, après, autorise l'adoption en fait, des frais réels. Et ce mandat spécial doit bien être donné par le conseil municipal, justement pour que l'application du régime forfaitaire, qui est normalement le privilégié, le régime privilégié, ne soit pas appliqué en l'état.
Et je rappelle que c'est la délibération qui est proposée par les services de la trésorerie. Donc après, monsieur d'Auvergne. Bien, donc moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Après, où je suis d'accord avec vous, on parle bien du débat. Enfin, on ne parle pas de... Moi, je vous ai fait une globalité des élus. D'ailleurs, je dois préciser quand même que lorsqu'on parle d'enrichissement personnel, les élus sont quand même très surveillés, notamment les maires, puisqu'on répond à la haute autorité pour la transparence de la vie publique ou politique, je ne sais jamais comment ça s'appelle, et on répond sur tout, c'est-à-dire que je peux vous assurer que moi, mes comptes bancaires et tout ce que je possède, alors c'est vite fait, on a vite fait le tour, mais tout est connu, y compris les montants qu'il y a dessus. Donc, alors par la haute autorité, pas par les particuliers, mais par la haute autorité, en début de mandat, en fin de mandat, donc c'est très transparent. Donc, je pense qu'effectivement, si on s'enrichissait, ça, on serait arrêté. Alors, il y en a d'autres qui arrivent par des moyens détournés, je leur souhaite bien du plaisir, c'est pas mon positionnement. Mais... ce que je ne voudrais pas, et je le redis, c'est qu'on puisse, à un moment donné, même si j'entends tout un tas de choses, c'est qu'on puisse, à un moment donné, laisser croire que des élus coûtent cher à la nation. Alors, il y en a peut-être qui coûtent cher à la nation, parce qu'ils dévient des règles, et pour cela, eh bien, moi, je pense qu'il y a des méthodes très simples. Il suffit de leur interdire de se présenter à un moment donné, de les sanctionner. Après, il y a la justice qui fait son affaire. Et les priver de droits civiques, à un moment donné, me semble être quelque chose qui est, qu'il faudrait appliquer de manière beaucoup plus énergique, ce qui éviterait de voir des élus, maires ou anciens maires, devant les caméras de télé, avec tout un tas de maisons et de propriétés, y compris à l'étranger, et qu'on a vu pendant des années et des années. Ou de voir ce qu'on a vu à un moment donné, d'ailleurs, à Angoulême, où la ville d'Angoulême est encore en train de finir de payer pour ce qui s'est passé. Mais je ne voudrais pas qu'on compare ça à un mandat spécial qui va nous coûter un hôtel et un aller-retour en train. Voilà. Donc, je vous propose de le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? 6 des votes contre, donc adopté à la majorité. Nous poursuivons notre collègue Philippe Gandois pour la détection incendie. On aurait peut-être dû la passer avant, finalement. Non, c'était pour éteindre l'incendie. Mais c'est...
Au terme d'une consultation auprès d'opérateurs économiques disposant des garanties et capacités professionnelles requises, l'entreprise Exindis, domiciliée 24-210 La Bachellerie, était attributeur du contrat de travaux portant sur l'installation d'un nouveau système de détection incendie au Palais des Sports. Le montant global des travaux s'élevait à 23 827,82 € hors taxes. L'intervention a été planifiée au cours de la période estivale afin de ne pas affecter le déroulement des manifestations sportives. La mission de maîtrise d'œuvre était assurée par la direction des services techniques. Lors de la réalisation des travaux, il a été relevé un dysfonctionnement technique sur le réseau aspirant de la tuyauterie en faux plafond, susceptible d'altérer l'efficacité du système de détection incendie dans les combles et d'engendrer une non-conformité de l'installation. Considérant que le cahier des charges en phase consultation ne prévoyait pas la réfection du réseau aspirant localisé dans les combles du bâtiment, l'opérateur économique a été sollicité afin d'établir un devis détaillé des travaux à réaliser et mettre en conformité l'ensemble du système. Ce complément de programme a été évalué par devis estimatif en date du 7 juillet 2021 à 4 978,40 € hors taxes, et au vu des justifications techniques et financières, les services de la collectivité préconisent la passation d'un acte modificatif qui porterait le montant global des travaux à 28 806,22 € hors taxes. Considérant les dispositions des articles R2194-2 et R2194-3 du Code de la commande publique qui précisent les cas dans lesquels un marché peut être modifié et celle du règlement intérieur des achats, il vous est proposé d'autoriser le maire à signer l'acte modificatif et à le notifier pour exécution des travaux.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité, notre collègue Hervé Baudet pour la mise en place de la nomenclature M57.
Donc, en application de l'article 106.3 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l'Assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels, donc M14 pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, M52 pour le département et M71 pour les régions, elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé d'adopter la mise en place de cette nouvelle nomenclature budgétaire et comptable et l'application du M57 pour le budget général et les budgets annexes à caractère administratif à compter du 1er janvier 2022. Il convient donc de fixer le mode de gestion des amortissements et mobilisations en M57, d'apurer le compte 1069 et d'appliquer la fongibilité des crédits. Donc, il vous est demandé d'adopter la mise en place de cette nomenclature budgétaire et comptable de la M57 pour le budget général de la commune, ainsi que ses budgets annexes à caractère administratif à compter du 1er janvier 2022. De décider de conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2022, d'approuver la mise à jour de cette délibération du 25 septembre 2017 en précisant les durées d'amortissement applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature, conformément à l'annexe jointe. Les autres durées d'amortissement correspondant effectivement aux durées habituelles d'utilisation restent inchangées. De calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisation au prorata temporis. de décider d'aménager la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeu des biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1 000 euros TTC. Ces biens de faible valeur seront amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur première acquisition. D'autoriser le maire à compter du 1er janvier à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, et d'autoriser le maire à signer tout document qui permettront l'application de cette présente délibération.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur Dauvergne.
Juste un doute, il n'y a pas de règlement budgétaire et financier, donc vous ne l'avez pas adopté encore, le règlement budgétaire et financier, non ? Un règlement budgétaire et financier n'a pas été adopté pour la commune de Saint-Junien, non ? D'accord.
Bien, d'autres questions ? Alors, je dois dire que notre nouveau logiciel comptable, c'est ça ? Nous permet justement de mettre en place la M57, ce qu'on n'aurait pas pu faire avec le précédent. Et on est un petit peu comme une pilote sur le département de la Haute-Vienne du fait de ce nouveau logiciel à la demande de la DGFiP et de la trésorerie. On va essuyer un peu les plates pour tout dire, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Thierry Granet demande de subvention de l'association Les Amis de Louise.
Oui, merci monsieur le maire. Mes chers collègues, l'association Les Amis de Louise sollicite une subvention pour le projet Saison Communarde pour le 150e anniversaire de la commune de Paris. Ce projet porte sur la commune, l'histoire de la commune, des spectacles, conférences, expositions, soirées, balades, émissions radiophoniques, journées, peintres de rue, interventions et projets en milieu scolaire, fêtes populaires. Le montant de cette subvention est de 620 euros. Alors, l'événement a eu lieu puisqu'il s'est situé, malgré la crise sanitaire, autour de la date anniversaire du 150e anniversaire de la commune de Paris. Les événements ont eu lieu. La subvention était convenue avec eux. C'est une délibération que nous aurions dû passer au printemps. Et puis, pour une raison, on l'a zappé. Mais pour que les Amis de Louise aient cette subvention de 620 euros, montant sur lequel nous étions communément engagés, il faut que nous passions cette délibération maintenant afin qu'elle soit bien prise sur l'exercice 2021. Voilà pourquoi cette délib arrive postérieurement après les événements précités. Je vous remercie.
Merci. Donc vous avez eu toutes les explications. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Esther Azoa-Fenozoa concernant un raccordement long.
Le maire indique au conseil municipal qu'une demande de permis de construire a été déposée par M. Valentin Meunier et Mme Amélie Fauconnier pour un projet de maison individuelle qui va être situé 49 rue de Moisson à Saint-Junien. Cette parcelle n'étant pas desservie, un chiffrage estimatif a été réalisé par Enedis. Il s'avère que les travaux d'extension du réseau électrique peuvent être recensés dans le cadre d'un raccordement long, étant précisé que seule la parcelle supportant la construction sera desservie par ce raccordement. Les frais liés à ces travaux, d'un montant estimatif 4 769,40 € hors taxe électricité, seront pris en charge en totalité par le demandeur.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Adoptés à l'unanimité ? Notre collègue Claude Balestra concernant une cession de terrain.
Alors, par délibération en date du 12 septembre 2011, le conseil municipal a adopté à l'unanimité l'aménagement du lotissement communal Le Boiseau-Boeuf, situé sur les parcelles communales cadastrées section EV 172 et 173 d'une surface de 17 144 m². Le plan de division du terrain communal réalisé par le cabinet Vincent, géomètre expert, permet de réaliser 12 lots à construire. Le prix des lots a été fixé à 20 euros TTC le mètre carré. Il est rappelé qu'un arbre, ça sera un fruitier, sera offert par la commune à chaque acquéreur. Il appartiendra à ce dernier de se rapprocher des services des espaces verts. Suite à la demande de Mme Payet, Sabine et de M. Brault-Emmanuel, il est proposé de céder à ces derniers la parcelle cadastrée section EV numéro 210 d'une superficie de 1 255 m² au prix de 20 € TTC. Les frais et actes notariés seront à la charge de l'acquéreur.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Laure Murat pour les remerciements.
Alors, l'association Saxophonie remercie la municipalité pour l'aide apportée lors du festival Saxophonie. Et le conseil municipal d'enfants remercie la municipalité pour l'implication lors de la marche écologique du 4 juillet.
Je remercie le rapporteur. Vous avez dans vos dossiers l'ensemble des décisions qui ont été prises depuis notre précédent conseil, donc depuis le 24 juin 2021. Et l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et je vous remercie. Et ceux qui avaient prévu de rester, donc on va leur demander de rester. Voilà. Merci.